Bonjour Olivier Norek.
Bonjour.
Je voudrais que l'on aille à la toute fin des guerriers de l'hiver, page 417. Vous écrivez « Personne aujourd'hui ne sait réellement ce que l'on doit aux soldats finlandais de la guerre d'hiver ». Vous, qu'est-ce que vous pensez qu'on leur doit ?
On leur doit énormément et c'est ce que ce livre essaie de montrer. Si vraiment vous allez à la fin du roman, et vous inquiétez pas, je divulgâche rien, mais si vous allez à la fin du roman, bien c'est les Russes ont réussi à prouver que pendant 105 jours, ils n'arrivent pas à rentrer dans un tout petit pays, pas plus de 2 ou 3 kilomètres. C'est un pays continent, la Russie, 171 millions de personnes. C'est une nation infinitésimale, la Finlande, 3 millions de personnes. Et pourtant, les Russes vont se casser le nez contre un mur de glace. Et c'est ça qui va montrer à Hitler que la Russie est un colosse au pied d'argile. Et Hitler, qui a 4,5 millions de soldats qu'il comptait envoyer sur l'Angleterre, bien, il va les envoyer sur la Russie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces 4,5 millions de soldats, ils sont pas sur l'Europe. Donc aujourd'hui, personne ne sait ce que seraient les frontières, notre pays, l'Europe, le monde entier, s'il n'y avait pas eu le sacrifice incroyable de ces 70 000 enfants de Finlande.
Donc dans ce livre, il est donc question de la guerre d'hiver, la guerre qu'a déclaré la Russie à la Finlande en 1939 et l'un de ses héros, un tireur d'élite, vous allez dire son nom à ma place.
Bien sûr. Alors en français, ce serait Simo Haya.
Ouais.
Et en finlandais, c'est Simo Haya.
Oui, vous le dites très bien. L'intérêt de raconter cette histoire aujourd'hui, c'est donc notamment en raison des passerelles, des convergences que vous y voyez avec aujourd'hui. Et ça vous a tenu tout au long de l'écriture ?
Eh bien, oui, il y en a une, elle est majeure. C'est tout simplement que lorsqu'on attaque un pays, on ne se doute pas de ce que les Finlandais appellent le sisu, le feu intérieur. Parce que ces gens qui se font envahir de manière totalement injuste et de manière totalement disproportionnée, ils défendent quoi ? Ils défendent leur ferme, leur terre, leur pays et ce qu'ils aiment. Et de l'autre côté, les Russes, dont 80% des soldats n'ont aucune envie d'être là et n'ont aucune envie de faire la guerre, eh bien en fait, ils n'ont pour eux qu'un ordre donné par un homme un peu psychopathe, Staline. Et donc, c'est la même chose qu'on retrouve en Ukraine. Quand on attaque un pays, qu'est-ce qu'on fait ? On attaque un homme qui défend sa ferme, sa terre, son pays et ceux qu'il aime.
Il y a donc ce tireur d'exception, il y a de nombreux autres personnages incroyables à côté de lui. Est-ce qu'on peut donc quand même revenir sur ce fameux tireur, puisque c'est une gloire nationale et que c'est même un tireur dont les capacités sont inégalées aujourd'hui, si j'ai bien compris.
Inégalées, voire presque fantastiques. Je pensais tomber sur un soldat avec un certain don pour le tir, puis je découvre que je suis en face d'une légende, mais plus que ça, en face d'un mythe. Et dans le mythe, j'y mets quelque chose d'un peu surnaturel, tout simplement parce que personne ne s'explique aujourd'hui comment Simo Haya réussissait à rester 4 heures, 5 heures allongé dans la neige par moins 51 degrés. Il faut savoir qu'une grande partie de cette guerre va se passer par moins 40, moins 50 degrés, ce qui est une température totalement incapacitante. Et pourtant, ils vont établir des stratégies, ils vont se battre, ils vont vivre, aimer, manger par cette température impossible. Autre chose qu'on ne s'explique pas, c'est comment Simo Haya, avec son fusil de chasse, sans lunettes de visée, réussissait à faire des tirs de 300 mètres, de 400 mètres, et pour un tir, le tir dont tout le monde parle et qui définit Simo Haya, c'est un tir de 490 mètres, ce qui fait que Simo réussissait à tirer là où l'œil ne voit pas. Tout simplement parce que, comme la Finlande, Simo s'est sublimé, et il n'a pas tiré avec son intelligence, il n'a pas tiré avec ses yeux, il a tiré avec son cœur, il a tiré avec son âme. Et c'est essentiellement ça qui va faire que pendant 105 jours, les Finlandais vont résister à une attaque qui est 10 fois plus grande qu'elle. Il va y avoir un soldat finlandais contre quasiment 10 soldats russes, et pourtant les Russes ne vont pas y arriver.
Vous décrivez très bien ce que ça fait de combattre dans le froid, ce que c'est que cette guerre par ces températures-là. Vous êtes allé l'expérimenter vous-même, ce froid ?
J'étais un flic de terrain. Pendant 18 ans, j'étais capitaine de police dans le 93 et dans Paris. Et quand je me suis mis à écrire, je suis devenu un auteur de terrain. Tout simplement parce que je suis un très, très mauvais inventeur. J'ai besoin de toucher, goûter, sentir. J'ai besoin de vivre mon aventure avant de l'écrire, avant de la partager avec les lecteurs et les lectrices. Ce qui fait que si mes personnages se sont battus en décembre en Finlande et en Laponie par moins 40, par moins 50 degrés, alors j'ai pris mon sac à dos et je suis allé vivre pendant 3 mois en Finlande pour aller essayer les moins 40, les moins 50 degrés, pour aller essayer l'arme de Simo Haya, pour marcher dans les pattes ses soldats, pour grenouiller de manière un peu déraisonnable tout le long de la frontière russe. Et j'ai travaillé avec des historiens, des snipers, des instructeurs de tir, des guides de musée, des passionnés d'histoire. Je suis rentré dans toutes les maisons qu'on m'a ouvertes, dans les greniers, j'ai ouvert les cartons et on m'a montré des traces, des indices, des petites choses qui restaient de cette guerre d'hiver et qui n'étaient pas encore compilées. Et je suis reparti de ce pays avec des informations que même les archives d'Helsinki n'avaient pas.
Il s'agit donc d'un roman historique, certes, mais écrit par Olivier Norek, c'est-à-dire avec la précision, l'efficacité, le sens de l'intrigue qui fait aussi le succès de vos polars. Est-ce que vous avez abordé l'écriture de ce livre différemment ou exactement de la même façon que d'habitude ?
En fait, c'est l'histoire qui commande. Donc mon livre, il va être très très vitaminé et il va être avec des chapitres très très courts si je raconte un polar très fort et très tendu. Là, il faut quand même voir que c'est une guerre de 105 jours où des gens habillés en blanc vont se battre contre des gens habillés en blanc et le tout dans la neige.
Oui, mais c'est page-turner quand même, si on peut employer cette expression.
Tout simplement parce que ma plume, elle est au service de l'histoire et donc j'adapte cette plume. Et si je vois effectivement que il y a beaucoup de tirs et on est beaucoup en blanc et qu'il se passe un peu tous les jours la même chose, eh bien moi, je vais devoir compenser avec une certaine plume, avec un certain lyrisme, une certaine poésie, même si on peut trouver que c'est décalé par rapport au sujet. Mais j'ai une manière de raconter que j'emprunte effectivement au code du polar. Tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, je pense que ce livre n'est pas moins bien écrit que mes autres romans policiers.
Et mieux ou pas ? Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, une fois que vous l'avez eu fini ?
Il est complètement différent. Il s'est passé aussi quelque chose dans l'écriture, dans mon roman Dans la jungle de Calais, qui s'appelle Entre deux mondes. Quand je suis responsable et quand j'ai la chance d'avoir entre les mains et entre les pages une histoire qui n'a pas été racontée, et une histoire aussi où on m'offre des histoires et j'en suis maintenant propriétaire, mais surtout défenseur, eh bien j'ai l'impression que ma plume devient plus libérée, elle a plus confiance en elle, et je m'autorise à écrire de manière un peu plus exigeante. Mais on n'a pas besoin des mêmes styles en fonction de l'histoire qu'on va raconter. Si ça avait été une romance, je l'aurais écrite différemment. Et si cette histoire avait eu besoin d'ADN et d'écoute téléphonique, ça aurait été un polar. Alors on me dit que j'ai écrit un roman historique. Ok, d'accord. Non, en fait, moi, je
rencontre... C'est un roman d'Olivier Norek.
Je rencontre une idée. Cette idée se cristallise en moi. Elle déménage tous les meubles à l'intérieur de chez moi. Elle me dit un matin, voilà, tu ne vas pas avoir d'autre choix que d'écrire cette histoire.
Il y a un énorme travail d'enquête et d'archives. Vous dites à la fin, les dialogues proviennent souvent d'archives. Or, je crois, dans un roman historique, c'est souvent dans les dialogues justement qu'il peut y avoir la liberté pour l'auteur, la part d'imagination qui vient se loger là. Vous, ça n'a pas été le cas ?
Non, aucune part d'imagination, il n'y a pas une respiration, il n'y a pas une virgule, il n'y a pas une anecdote que j'ai dû inventer. C'est-à-dire que cette histoire est tellement folle, et les moments de bravoure sont tellement incroyables, mais vraiment le mot, c'est incroyable, qu'on ne peut pas croire. Les personnages sont tellement fous.
Donc ils ont tous existé, ces personnages ?
Tous, absolument tous, et toutes les anecdotes ont existé, mais ce sont des situations tellement incroyables que je n'ai pas eu à inventer. Et même, encore pire, il a fallu que je mette à la fin de mon roman que tout ce que vous avez lu est vrai, sinon personne, absolument personne, n'aurait cru à cette histoire que vous allez lire.
Vous citez en remerciement beaucoup, beaucoup de sources finlandaises. Est-ce qu'ils étaient heureux de partager cette histoire avec vous ? Est-ce qu'ils aimaient l'idée que quelqu'un venu de l'étranger aide à faire sortir cette histoire de l'ombre pour beaucoup de personnes ?
Que ce soit la Finlande, ou un pêcheur quand j'ai écrit Dans les brumes de Kaplan, ou un migrant soudanais quand j'ai écrit Entre deux mondes, ou un flic de commissariat, ou un flic de la BAC, ou un flic de la PJ, quand vous asseyez en face de quelqu'un et que vous lui dites « ton histoire m'intéresse, tu m'intéresses », eh bien les portes s'ouvrent. Et la timidité et la gêne s'effacent, parce que c'est une histoire qui est fondatrice de la Finlande, c'est une histoire qui a été le ciment de ce pays. Et de voir un étranger, un petit français, débarquer chez eux et de leur dire « mais cette histoire, elle nous intéresse, il faut que les gens la connaissent », eh bien les portes s'ouvrent plus facilement. Les langues se délient plus facilement et puis les cœurs aussi parce que j'ai été magnifiquement accueilli.
Et donc il va être traduit là-bas ?
Je ne sais pas réellement si le roman émotionnel et sensible, le roman qui met le lecteur et la lectrice à l'intérieur de l'uniforme de ces soldats, je ne sais pas s'il a été écrit en Finlande. Je sais que beaucoup de romans ont été écrits sur cette guerre, beaucoup de romans ont été écrits sur ces personnes, mais je crois qu'ils sont historiques, factuels, et le côté vraiment de se mettre à la hauteur d'homme, je n'ai pas trouvé ce roman. Et je ne pense pas qu'il existe. Donc pour l'instant, je pense qu'ils sont à plusieurs autour d'une table, avec les feuillets traduits en anglais, à se demander, est-ce que le petit français qui est venu chez nous a rendu honneur à notre pays et a respecté les personnages de cette guerre comme nous on les respecte pour les héros qu'ils sont.
Olivier Norek, vous signez Les guerriers de l'hiver chez Michel Lafon, un pan d'histoire méconnue, un peuple qui se lève contre une attaque injuste, un sniper devenu une légende et un roman qui affole les chiffres de vente depuis sa sortie. Merci beaucoup.
Merci à vous.